Ben, c'est gentil, les applaudissements, mais ce n'était peut-être pas pour nous, c'était peut-être pour des musiciens qui allaient se faire entendre, je ne sais pas. Mais enfin, croyez-moi, nous n'avons pas un auditoire en direct ici, à part de Jennifer et Mathieu de l'autre côté de la vitre, là. Enfin, longue histoire courte. Bonjour Esther.
Bonjour François.
Alors voilà, on est finalement de retour à Bonport.
De retour.
Et d'une longue, si je peux dire, d'un long périple. Encore une fois, on a fait un petit peu le tour du monde et on va partager ça avec nos auditeurs. On va faire ça d'une façon sereine, hein, même si parfois les sujets peuvent être... un peu désarçonnant. Alors, on commence par en France.
Oui, en fait, ce mercredi de la semaine dernière, il y a eu la conférence nationale sur le handicap qui était pro. On en parlait depuis quelque temps quand même. Et Emmanuel Macron, le président, a fait des annonces très positives. En fait, d'abord, il a souligné qu'il y a 12 millions de personnes handicapées en France, donc c'est loin d'être à mettre à l'index.
Oui, et il faut dire que cette conférence, c'était la sixième, qui a lieu tous les trois ans. Le président Macron avait, d'ailleurs, dès son premier quinquennat, annoncé que ce serait les mesures ou l'inclusion, l'accessibilité était parmi ses priorités de son premier quinquennat. Bon, mais là, il est rendu au deuxième. On veut lui donner une chance au coureur. Mais il a donc annoncé des mesures, tout un train de mesures.
Oui, quand même. Hein. En fait, dans la dernière conférence nationale, comme vous le disiez, on avait parlé d'accessibilité universelle, d'inclusion à l'école, la mobilisation pour le plein emploi et la simplification de l'accès aux démarches administratives et à l'offre médico-sociale. Ben, en fait, cette année, il a poussé encore plus loin ces belles intentions et il a mis du budget supplémentaire, particulièrement pour les écoles, mais en fait, pour à peu près toutes les mesures. Donc, il y a vraiment des ouvertures. Il veut vraiment faire un effort. Il veut souligner le fait que dans le fronton, naturellement, de la France, on parle d'égalité.
Entre autres, oui, fraternité, oui, c'est bien. Et liberté, voilà. c'est super. Égalité, malheureusement, c'est pour 12 millions de Français, ça y est pas tout à fait. Et donc, c'est 70 mesures dans toutes sortes de domaines. On parle de voir à la présence de professionnels aidants dans chaque école pour aider les enfants en situation de handicap qui seraient en difficulté, des efforts d'accessibilité au logement, au travail. C'est une mobilisation vraiment pour le plein emploi, la simplification de l'accès aux démarches administratives, tout ça. Alors, c'est énorme.
C'est énorme. Et en particulier, on va souligner quand même une nouvelle qui est, je dirais, encore plus sensible parce qu'il y a une volonté du gouvernement de généraliser le dispositif Handigénico qui prévoit un accompagnement gynécologique, en fait, qui va permettre de mieux détecter les violences sexuelles faites sur les handicapés. Ce n'est pas rien.
Oui, tout à fait, parce que il y a eu un projet pilote dans la région de l'Île-de-France. Et une étude qui a été menée de 2018 jusqu'à la fin 2019, juste avant la pandémie, que sur les 434 femmes vues en consultation gynécologique, 111, on parle de femmes vivant en situation de handicap, 111 ont déclaré des violences parfois multiples. Et on sait ici au Québec, pour en avoir parlé à quelques reprises à notre antenne, à Sans détour, d'ailleurs nous aurons quelqu'un qui nous en parlera davantage à la situation au Québec des femmes, la pénible situation des femmes en situation de handicap au Québec face à la violence. On s'en reparle la semaine prochaine, mais on le sait que c'est quelque chose qui est généralisé partout dans toutes les sociétés. Alors, la France veut faire quelque chose particulièrement.
On est très, très heureux de la chose, vraiment.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment important.
Cette mesure de faciliter la communication, la prise en charge, d'abord, il faut que le lieu soit accessible. Il ne faut pas non plus que le professionnel de la santé d'office refuse de prodiguer des examens gynécologiques parce qu'il n'est pas équipé, ça ne tente pas, puis ça va être compliqué. Là.
Exactement.
Ça, c'est des réponses qu'on nous donne encore de nos jours. Voilà. Alors, on espère que cette politique annoncée par
Emmanuel Macron,
oui, voilà, oui. Que ça tienne la route, mais c'est quand même très bien.
Oui, c'est un bel apport.
Ça arrive peu de temps après que la France se soit fait taper sur les doigts, par l'Organisation des Nations Unies, comme quoi, à titre de signataire de la Charte des droits des personnes handicapées, la France n'était pas tout à fait à niveau.
Voilà, alors, c'est bien ça. Les efforts sont maintenant faits. La volonté de faire les efforts,
en tout cas, est annoncée.
On verra. Oui.
Voilà.
On verra la suite.
On traverse la Manche.
Oui, et on a justement la revue, le magazine Vogue UK. United Kingdom.
United Kingdom, voilà, qui va bientôt avoir son couronnement, là, le roi Charles III, là, c'est samedi prochain.
Oui, c'est vrai.
Alors, si vous aimez les gros trucs là, avec les chevaux, puis les carrosses, là, puis tout le monde qui ont des plumes sur la casquette, ça c'est samedi matin. Mais voilà, donc à Londres...
Oui, en fait, c'est que le magazine aussi, Vogue, s'était fait taper sur les doigts.
Oh.
Justement parce qu'au niveau du handicap, on excluait sincèrement toute personnalité du domaine. Et là, on fait un apport, on ouvre les portes, on fait des unes avec Selma Blair, atteinte de sclérose en plaques, Cinéade Burke, blogueuse de petite taille. En fait, plein de couvertures inspirantes pour recadrer la mode.
Bravo!
Justement. Donc, on fait un grand effort et ça va continuer pendant plusieurs mois. On veut vraiment souligner... En fait, le mannequinat, toutes les dames qui ou les dames ou les hommes, naturellement, qui sont dans le domaine, qui sont handicapées, mais qui sont quand même, qui font quand même carrière dans le domaine.
Ben oui, puis on aime ça être bien habillé. Voilà.
Mais voilà, pourquoi pas.
Et la rédaction a même sollicité l'aide du Royal National Institute of Blind People de Londres, une association, évidemment, dont on peut deviner... la mission, pour réaliser des versions, des éditions en braille et même en version audio de Vogue. Alors, peut-être qu'ils vont faire de la photodescription, parce qu'on sait que ces magazines-là, c'est beaucoup, beaucoup de photos. Ben, rappelons-le, l'occasion des Paralympiques à Rio.
Voilà.
Il y a 7 ans, Vogue UK avait fait un numéro spécial paralympique où, en fait, c'était des mannequins valides qui avaient été photoshopés pour les rendre en situation d'handicap. Hein.
On grande bévue, oui.
Ben, rendre pas virtuellement, là. On a pris une photo de quelqu'un qui avait 2 bras pour lui en enlever un parce que, comme quoi, il y avait vraiment personne en situation d'handicap qui aurait pu être mannequin. Alors, c'était très insultant.
Oui, on ne s'était vraiment pas cassé la tête à ce moment-là. C'est sincère.
Non, non.
Là.
Et ça venait, d'une perspective navrante. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. On va vers l'avant.
Ils se prennent bien.
Et on se retrouve encore pour une start-up.
Oui, en fait, à Toulouse, une start-up qui s'appelle
Phil Object, qui est une start-up.
En fait, qui développe des tablettes pour aider les non-voyants à s'orienter dans des lieux qu'ils ne connaissent pas. Donc, normalement, naturellement, pour une personne qui est semi-voyante ou non-voyante, arriver dans un nouveau lieu, c'est quand même un gros aria. Il y a beaucoup de tâtonnements pour savoir où aller. D'ailleurs, il y a des gens qui nous disaient que, en fait, dans cet article-là, qui souligne que ça peut prendre 30 minutes à trouver une salle de bain lorsqu'on est non-voyant.
Oui, oui. Quand vous êtes non-voyant dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous êtes mieux de penser à la nécessité d'aller à la salle de bain un peu d'avance, parce que si c'est difficile de trouver le lieu en question, ça se complique rapidement.
Donc, on a fait c'est une application, mais je pense, non, c'est vraiment une tablette.
C'est un objet qui se transforme.
Oui, il y a des plans dedans. Ça s'appelle Virtuose, en fait. Et justement, il y a un assistant sonore et il y a des reliefs. La tablette est équipée de reliefs pour faire un plan.
Oh.
Donc, les personnes malvoyantes ou aveugles qui ne peuvent pas s'orienter dans des environnements encore connus vont facilement se retrouver parce que c'est vraiment facile en touchant. On peut détecter quel lieu, les escaliers, les rampes.
Et en même temps, il y a un accompagnement sonore.
Voilà,
qui
donne des informations supplémentaires.
Alors ça, c'est en France. Vous savez que quand on dit « start-up » et « fill object », c'est un petit clin d'œil parce qu'on trouve ça amusant que l'utilisation de mots anglais À répétition, mais on est très content du travail qui se fait là-bas.
Oui, voilà.
Faut pas prendre ça au premier degré. Hein? On vient de ce côté-ci de l'Atlantique, on s'en va à Haïti.
Oui, à l'occasion de la grande finale de la deuxième édition du concours national de slogan de l'Institut haïtien de langue des signes, IHLS, le responsable ont procédé également au lancement du projet intitulé « Accès à l'information et à la formation professionnelle au profit des personnes handicapées, les sourds en particulier, en fait, les personnes vivant
avec un
handicap. »
Oui, on peut le penser parce que la langue des signes, c'est dans leur créneau.
Oui, voilà. Alors, réalisé en partenariat avec le Centre de communication adaptée du Canada, donc...
On peut être fier, on y est pour quelque chose.
On a mis l'épaule à la roue. Oui, voilà. Le ministère des Relations internationales du Canada a financé une partie. Donc, il y a deux volets parce qu'il y a aussi...
Il y a une sorte de capsule qui est faite, qui est rédigée ou qui est en fait en langue des signes haïtienne. Qui porte sur le choléra, parce qu'évidemment, les maladies infectieuses qui font des ravages là-bas, ben, il faut que les gens connaissent les mesures d'hygiène, comment réagir, les soins, ainsi de suite. Alors, il y a eu une capsule vidéo expliquée en langue des signes pour permettre aux gens en Haïti là, de se prémunir ou de prendre les bonnes mesures pour éviter que le choléra ne se répande davantage. Alors ça, c'est une chose. Des méthodes de prévention et tout ça, mais en langue des signes. Ça, c'est très bien. Et pour l'année prochaine, en 2024...
Il y a un deuxième volet qui consistera à une série de formations au profit de 50 personnes qui vivent avec un handicap auditif à travers 4 ateliers. Donc, c'est des ateliers variés, là, de couture, d'ébéniste, de décoration et de maquillage.
On m'a même dit qu'il allait avoir un atelier de cuisine.
Ah, ben voilà!
Voilà, on en sait des choses! On parlait tout à l'heure de la situation en France, là, des efforts consentis maintenant par la présidence Macron et Mme Borne, sa première ministre. En Suisse, il y a encore du chemin à faire.
Oui, on a constaté ça, c'est qu'en fait, il y a 1,7 million de personnes qui vivent avec un handicap en Suisse et qui se heurtent quotidiennement à de nombreux obstacles. Bon, c'est probablement le quotidien de bien des gens qui vivent aussi ici. Mais en Suisse, c'est pire. On va le dire, c'est pire.
Ben oui, pour avoir fait d'autres petits tours en Suisse, vous avez constaté au cours des dernières semaines que de temps en temps, là, il y avait encore certaines mises à niveau qui étaient nécessaires.
Nécessaires, tout à fait.
La Constitution de la Fédération suisse interdit depuis 2000 toute discrimination fondée sur un handicap. C'est fort bien, mais on peut quand même constater que 2000, c'est il n'y a pas si longtemps. C'est un peu comme... le vote des femmes. Une large alliance regroupant des personnes en situation d'handicap a fait front commun.
Voilà. Et on a réussi, en fait, à convaincre le gouvernement qui voulait, qu'il y avait quand même une ouverture, il faut le dire, mais qu'on pourrait dire que les actes n'étaient pas encore tout à fait à
point. Oui, encore un bel exemple de la vertu qui n'est pas appliquée.
Mais ça y est, on veut vraiment avancer et les choses seront faites.
Voilà. Alors, on va revenir chez nous dans deux petites minutes. Voilà. Oui, les Oilers d'Edmonton se sont qualifiés pour la deuxième ronde en week-end, mais on va parler d'Edmonton, mais pas pour la même raison.
Non, pour le True Angel, qui réalise actuellement des essais cliniques dans la province et travaille à obtenir l'approbation de Santé Canada.
Pour s'ils font ça, là, c'est pas pour rien, parce que cette entreprise d'Edmonton vient de mettre au point, hein? Un dispositif qui va aider les personnes qui font de la dysphagie, qui ont de la difficulté à avaler, à déglutir.
Oui, c'est important.
Ça peut être après des chirurgies, ça peut être après un accident. Il y a toutes sortes de chemins, malheureusement, qui mènent à la dysphagie. Donc, ce dispositif va aider à la réhabilitation.
Oui, c'est un appareil qui s'installe sous le menton et les capteurs notent la contraction des muscles et le temps que ça prend pour, en fait, contracter.
La contraction, l'intensité de la contraction et sa durée.
Voilà, pendant lequel cette contraction a lieu. Voilà, l'appareil est une source de motivation pour maintenir le programme d'exercice nécessaire à la réadaptation.
Parce que ce qui arrive, c'est que les données qui sont captées par ce dispositif sont transmises à une application sur le téléphone. Et à ce moment-là, le médecin, l'ergothérapeute, enfin la personne qui va superviser les exercices ou le programme de réadaptation va avoir une meilleure idée des progrès de la personne qui souffre malheureusement de dysphagie. Puis évidemment, la personne qui vit avec ça, ben, ça l'encourage en voyant que les exercices parfois longs, fastidieux et pas évidents vont du bon côté des choses. Voilà.
Et c'est grâce à une bourse de 200 000 $ obtenue de la Fondation du cancer de l'Alberta.
Exact.
Qui ont pu faire
voilà. En parlant de dons, il y a des gens généreux au Québec.
Ah oui, ah. Monsieur Marcel Lucier, nommons-le, qui a gagné 7 millions de $ à la loto l'été dernier.
Il n'a pas gagné 7 millions, madame.
Oh, non,
il
non,
a gagné
non,
70.
70,
okay.
Voilà.
C'est ce qui n'est pas rien.
Oui. Oui,
voilà.
Et il en consacre 10 % donc 7 millions, pour, en fait, la Fondation Véro et Louis. Hein, donc, on connaît naturellement Véronique Cloutier et Louis Morissette qui ont une fondation.
Un power couple.
Oui. C'est une fondation qui vient en aide aux personnes autistes, mais devenues adultes. Donc, ils construisent des maisons pour aider ces personnes-là à justement avoir leur endroit à eux-mêmes. Et avec ces 7 millions de $-là, on va pouvoir construire deux nouvelles maisons.
Bravo.
Celle à Victoriaville et une dans les Laurentides. Donc, c'est pour les autistes de plus de 21 ans.
D'accord. Alors, ben là, bon, merci évidemment, M. Lucier. Puis, il aurait pu penser à d'autres causes. Puis, ben, en tout cas,
ça viendra peut-être.
Ben, peut-être, mais ouais. C'est tout de même très généreux de sa part. Et on peut penser là, que tout le bienfait que ça veut dire, ben pour une fondation de recevoir un coup de fil en disant on a 7 millions à vous donner, ben là c'était comme un peu comme Louis Morissette lui-même l'a dit, c'est un peu comme si la fondation elle-même avait gagné la loterie. Hein?
Voilà.
Hein? Puis, c'est bien. C'est,
j'ai ouï dire qu'il y en avait la larme à l'œil. Donc
ah, ben
très,
c'est bien.
Il
y a de quoi aussi, il y a de quoi, tout
ouais,
à fait.
Avec raison.
Il y a eu le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, dis-je, à Québec, toujours. Remettait la semaine dernière des prix.
Oui, un hommage aux bénévolat au Québec pour 2023. Donc, on commence par la maison Albatros à Trois-Rivières. En fait, on a souligné son apport parce que les bénévoles accompagnent des personnes recevant des soins palliatifs et offrent du soutien à leurs proches.
Depuis même, en fait...
Presque 20 ans.
Presque 20 ans, exact. Parce qu'il y a plusieurs de ces organismes, donc, qui ont reçu cette distinction, qui sont dans le domaine communautaire qui nous est cher ici à Canal M. Le Centre d'action bénévole Trade Union en Mauricie, qui depuis plus de 50 ans, le Centre d'action bénévole Trade Union, promeut, hein, ça c'est bien parce que c'est pas toujours évident qu'on utilise cette conjugaison, promeut l'action bénévole. Il y a plus de 600 heures de bénévolat chaque semaine en Mauricie. Ça fait 250 bénévoles qui consacrent 25 000 heures par année. Alors, c'est le Centre d'action bénévole Trade Union de Mauricie, dont le travail a été... on s'est mérité un coup de chapeau.
Ouais,
voilà.
C'est impressionnant. Et Informel Montérégie, en fait, qui fête ses 45 bougies d'existence. L'activité de cet organisme consiste à fournir des renseignements sur les droits et les obligations en matière familiale.
Exact. Cette organisation, il faut le souligner, est par les femmes, pour les femmes. Quand on dit informel, c'est M'E2LE. Ce sont toutes des femmes qui travaillent à titre de bénévoles. Et ça s'adresse surtout à les personnes qui appellent pour avoir des renseignements sont souvent des femmes qui sont aux prises avec des situations de droit familial qui ne sont pas évidentes. Ça peut être des personnes qui sont victimes de violences ou qui, de nouvelles arrivantes au Québec,
ouais,
ne connaissent pas nécessairement tous leurs droits. Et c'est la mission d'Informel qui est à Saint-Hubert, je pense bien, de les aider. Voilà. La maison des jeunes, la Butte également,
en Montérégie,
en Montérégie, oui, aussi, s'est vue récompensée pour son action qui stimule le bénévolat chez les jeunes entre 12 et 17 ans. Alors là encore, c'est une activité qui je dirais, fait du bien de deux façons. Un, ça permet aux jeunes d'acquérir des habiletés et plus d'aisance face à des situations de la vie courante. Puis en même temps, ben, ça fait du bien aux organismes qui bénéficient de cet apport de bénévolat. Mais tenons-le à le souligner spécialement ici à Canal M, il y a le RAM.
Le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes, du Montréal métropolitain. On en parle presque à chaque semaine, François.
Ben oui, c'est sûr, c'est des partenaires.
C'est des partenaires. Donc, la représentante de l'organisme, Mme Martine Grenier, responsable du service d'aide bénévole, a reçu en fait ce prix-là pour l'organisme au complet.
Oui, tout à fait.
Qui œuvre depuis 27 ans auprès des membres de cet organisme qui vivent avec une déficience visuelle. Donc, les bénévoles les accompagnent dans différentes activités quotidiennes, les commissions, les rendez-vous, les sorties de loisirs. Il faut ajouter tout ce qu'on sait, la formation, des ateliers réguliers.
Et en parlant, voilà, en parlant d'ateliers, le RAM, toujours, la conférence sur le sommeil avait été reportée, mais aura bel et bien lieu lundi, le 12 juin. Cette conférence donnée par Mme Claudia Picard-Delan de l'Université de Montréal sera donnée de 13h30 à 15h le 12 juin. C'est en présence. L'inscription, la date limite est le 5 juin. Vous avez jusqu'à ce moment-là. Vous pouvez contacter Céline au 514-277-4401, poste 111, pour vous y inscrire. Il faut comprendre, Esther, que le sommeil est une problématique pour plusieurs personnes qui ont un handicap visuel parce que le cycle circadien n'est pas facile à maintenir quand on ne sait pas tout à fait si c'est le jour ou la nuit.
Wow, voilà. Alors, c'est très intéressant.
Ça fait du sens quand vous y pensez un peu. Plusieurs personnes dans mon entourage qui ont une cécité totale et pour qui le sommeil, c'est souvent un peu problématique pour ces raisons-là.
Oui, je comprends. On parle aussi, en fait, de gens qui vivent avec l'apnée du sommeil, des insomnies.
Aussi.
Ça peut aussi contribuer à leur santé.
Une conférence très
intéressante.
Il y a un lien direct
entre
le sommeil.
Et je crois que c'est gratuit.
Non, ça coûte 5 $.
5 $.
Mais quand même. C'est presque
gratuit.
Ça vaut la peine. Tout à fait. Il faut pas... C'est pas gratuit, mais c'est disons qu'il y a un ticket modérateur. Cela dit, en parlant justement des dates limites et de ces choses-là, le programme du ministre de l'Emploi et de nous rappelle que la troisième édition du programme Duo Emploi va avoir lieu très bientôt. Et pour s'y inscrire, cet organisme Duo Emploi, on le rappelle, c'est une façon pour des personnes en situation d'handicap de faire une journée de découverte au sein d'une entreprise. Ça permet aussi à l'entreprise de comprendre le bon côté des choses, d'avoir des employés qui vivent avec une situation d'handicap et qu'est-ce que ça demande comme adaptation. Les stages d'un jour se tiendront dans toutes les régions du Québec au cours de la semaine québécoise des personnes en situation d'handicap, soit du 1er au 7 juin. La date limite pour s'inscrire à Duo Emploi pour la première semaine de juin, c'est le 5 mai. Et le 5 mai, là, c'est bientôt,
vendredi.
Oui. Voilà. Alors, on vous suggère, si vous voulez vous inscrire, ce n'est pas encore... La porte n'est pas fermée. C'est sur québec.ca/duo-emploi. Cet hyperlien s'ouvrira vers une autre fenêtre qui va vous permettre de vous inscrire. Voilà. Ça fait le tour de la planète. J'aimerais remercier Mme Esther Hardy. Merci, Esther.
Merci à vous.
Vous avez maintenant le temps de défaire vos valises avant de repartir une autre fois. Tout à fait. À la régie, on a Mathieu Tessier. Mais Mathieu, finalement, il fait presque plus rien, là. C'est Jennifer Ondo qui se tape tout le travail. Merci, Jennifer. Et Claire Guérin à la recherche. Donc, on n'entend pas la voix, mais dont nous lisons le travail et le labeur chaque semaine. Ici François Beauregard qui vous souhaite un bon mois de mai jusqu'à la semaine prochaine.